RCF.
Si l'on me démontrait avec certitude que Jésus a vraiment existé, si je possédais les preuves de sa résurrection, alors je pourrais davantage croire à cette histoire incroyable que racontent les évangiles. Il n'est pas rare d'entendre ce type d'argument chez ceux et celles qui parlent du christianisme. Les chrétiens eux-mêmes peuvent se dire que ça aurait été nettement plus facile pour eux s'ils avaient physiquement côtoyé Jésus, que les disciples avaient bien de la chance d'être aux premières loges au matin de Pâques. Et si ces questions étaient déjà dans la tête des tout premiers acteurs de l'époque? C'est en tout cas ce qui ressort de l'épisode évangélique que nous allons lire ce dimanche, en compagnie de James Woody. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Nous écoutons la page d'évangile. C'est en Jean, chapitre 20, versets 19 à 31.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main. » Et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
James Woody, ce passage de l'évangile de Jean a lieu juste après la résurrection. Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala. Et puis, il lui a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à ses frères. Ce qu'elle a dû faire, et pourtant, les disciples sont recroquevillés, enfermés dans leur maison.
Donc, ils devraient être dans une attitude de confiance. Mais ils sont effectivement enfermés, tous ensemble, dans une pièce. Alors, peut-être que c'est le moment aussi de dire que le contexte de la rédaction n'est peut-être pas tout à fait le contexte de l'événement. C'est-à-dire que l'évangile de Jean a été écrit dans les années 90. Et là, ce dont il est question, la peur des Juifs, la phobie des Juifs, pour reprendre le terme grec, elle est peut-être liée à la situation des premiers chrétiens dans les années 80-90, exclus de la synagogue. C'est-à-dire qu'il y a une rupture avec le judaïsme. Il pouvait tout à fait s'imaginer comme étant un des courants du judaïsme, et en fait, il y a une rupture. Ils doivent désormais penser leur existence indépendamment des racines juives.
Donc au moment de la rédaction de cet évangile, presque 80 ans après la résurrection, il y a ce contexte-là, quoi.
Dans le livre des Actes, on voit qu'il y a quelques lapidations. Étienne, par exemple, par quelqu'un qui deviendra Paul. Mais les pharisiens, manifestement, sont pas tout à fait très fraternels. Donc, il y a une crainte des Juifs. Les chrétiens commencent à se faire appeler chrétiens, d'ailleurs, dans cette époque. Et ils ont tout à craindre du judaïsme. Et puis, il y a aussi autre chose. On va le voir dans le déroulement de ce texte. On n'est plus avec la génération des premiers témoins. On n'est plus avec la génération des auditeurs primitifs de Jésus. On est déjà dans la transmission. Ceux qui n'étaient pas là quand Jésus arrive. Et on va le voir, ça peut parler de cela aussi, en fait.
Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Grande sobriété dans ce récit de la rencontre entre le ressuscité et les disciples. Il était là au milieu d'eux, mais il n'y a absolument aucun détail sur le comment.
On ne sait pas comment il a fait le passe-muraille. Il y a cette indication assez intéressante, c'est le premier jour de la semaine. Donc comme on le disait, c'est le lendemain de ce Shabbat où il y avait Jésus enfermé, et puis c'est le jour où le tombeau est vide. Il est apparu le matin à Marie-Madeleine, et le soir, on est dans une ambiance d'office en fait. C'est-à-dire qu'on est, c'est le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Hein, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Eh bien en fait, on est à la messe, on est au culte. Et ça commence comme ça, une messe ou un culte. La paix soit avec vous. En fait, on est déjà dans l'office chrétien primitif, dans son dépouillement absolu, qui est de dire, le Seigneur est présent là où deux ou trois sont réunis en son nom.
Autrement dit, Jean ou l'école joannique raconte un événement, et à travers cet événement, il nous parle de la condition des premiers chrétiens, oui. Hein, vous l'avez dit. Mmh. Et donc, en filigrane, tout au cours de cet évangile, on retrouve ça.
On retrouve la question comment être disciple aujourd'hui, à la fois comment devenir disciple et comment instituer cette vocation de disciple ici dans une dimension cultuelle. Il y a une sorte de catéchèse en fait dans ce texte. Comment on passe du doute à la foi et une fois que cela est établi, comment on le célèbre en fait? Eh bien on le célèbre d'abord en disant que même dans nos enfermements les plus absolus, même dans notre entre-soi ecclésial, je veux dire, c'est extrêmement polémique. Jean est face à des communautés qui veulent vivre dans l'entre-soi, une sorte de pureté. Eh bien là, il y a de l'altérité qui les rejoint. Il y a autre chose que leur cénacle. Jésus est capable de franchir ces barrières institutionnelles. Le ressuscité est capable de passer outre nos clivages au sein du christianisme. Il est même capable de passer outre les clivages religieux, à vrai dire. À condition d'être un tant soit peu accueillant, c'est vrai.
CF. Enfin une bonne nouvelle.
James Woody, nous regardons avec vous cet évangile, manifestation de Jésus ressuscité auprès de ses disciples. Par trois fois, Jésus va dire « La paix soit avec vous ». Et puis, après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme si, finalement, il y avait une excitation. Pourquoi dit-il « La paix soit avec vous » trois fois?
Alors, il l'avait déjà dit lors du dernier repas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, il leur annonce la paix, non pas comme le monde la donne. C'est pas la Pax Romana. La paix de Jésus, elle ne se fonde pas sur le dos de quelqu'un d'autre. Là où la paix de Rome s'impose, la paix de Jésus se propose, elle s'offre. Et on voit qu'on pourrait très bien avoir une sorte d'échec par rapport à cette paix. Et donc il est même obligé d'y revenir pour que cette excitation, comme vous dites, ne prenne pas le dessus, mais que ce soit bien une question de paix intérieure qui préside à leur foi, et pas la fièvre religieuse. Donc il y a la peur des Juifs. Il vient en disant « La paix soit avec vous ». Il ne faudrait pas que les disciples se disent « Très bien, on va établir la paix en éradiquant l'opposition juive ». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. La paix, elle va se construire de façon absolue et pas sur le dos d'un judaïsme qui deviendrait l'ennemi. Les juifs perfides, par exemple. Ben non, ça, l'évangile de Jean le neutralise par la parole qui est mise dans la bouche du ressuscité.
Ça, c'est pour la paix. Et puis alors, il montre ses blessures. Pourquoi le récit nous fait part de cela? Jésus qui montre ses mains, son côté.
Alors il y a deux choses. Tout d'abord, il y a quelque chose qui est finalement assez paulinien aussi. Je ne veux connaître que le Christ crucifié. Il n'y a pas de théologie de la gloire. Il n'est hors de question de supprimer le Vendredi Saint. Il est hors de question de supprimer la crucifixion et le malheur. hors de question de supprimer le scandale de la croix. Contre une église chrétienne qui pourrait vouloir s'établir sur la gloire de la résurrection, être toute puissante, toute dominante, les marques, les stigmates rappellent la condition du véritable disciple qui est de ne pas prendre les armes ou de ne pas être dans une sorte de superbe qui épargnerait du malheur, par exemple.
Oui, donc les blessures rappellent la finitude, notre finitude humaine.
La faiblesse de Dieu.
Que Dieu même lui a endossé.
Oui. Et si on n'est plus habillé de cela, si on n'est plus habillé des stigmates, alors on peut être extrêmement violent, vous voyez, c'est dans le rapport à la vérité, on peut être extrêmement dogmatique, et ça peut peut-être même engager des sortes de guerres de religion. Quand on parle du djihad mal compris, c'est quand on est dans une attitude où on a cette conviction absolue, cette certitude de détenir la vérité, il faut l'imposer coûte que coûte, il faut la Pax Romana. Là, les stigmates vont dans le sens de la paix proposée par Jésus. L'autre élément, c'est que les stigmates sont dans les mains. Et ça, c'est intéressant sur le plan historique, parce que c'est faux. Jésus n'a pas pu être cloué dans les paumes des mains, sinon il se serait déchiré sur la croix.
C'est ses poignets qui ont été percés.
Ce sont absolument les poignets, ou alors entre les deux os de l'avant-bras, mais certainement pas les mains. Quand il y a des stigmates sur les paumes des mains, c'est très joli, c'est certainement une belle construction théologique.
Qu'on a vu dans les tableaux.
Bien sûr, Jésus est toujours crucifié sur les mains, et ça peut pas tenir, ça se déchirerait. Donc c'est aussi une indication, à mon avis, que met l'auteur pour dire. Attention, on n'est pas dans un récit historique. Jésus n'a pas eu une métamorphose moléculaire qui lui permet de passer à travers les portes fermées. Et c'est bien d'une construction théologique dont nous parlons. C'est-à-dire que c'est Dieu que nous célébrons qui est en jeu ici et pas un homme historique qui aurait subi une réanimation biologique.
James Woody, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Jésus se manifeste à ses disciples après la résurrection, alors il montre ses mains et son côté. Et puis Jésus dit, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » C'est un envoi en mission officielle ?
C'est le récit de la Pentecôte chez Jean, le don de l'esprit. Et on se souvient que l'esprit, aussi bien en hébreu qu'en grec, c'est le souffle, c'est le vent. Et donc, l'esprit forcément est soufflé. D'ailleurs, la tradition orthodoxe a gardé cela pour le baptême. Le prêtre souffle sur le baptisé. Oui, c'est le don de l'esprit, c'est une chrismation. C'est vraiment très intéressant. L'esprit, c'est la capacité que nous avons à rejoindre l'autre dans son univers personnel. C'est la capacité que nous avons à entrer vraiment en dialogue avec les uns et les autres. C'est ce que dit le récit de Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres. C'est exactement ce que dit ici l'évangile de Jean.
Oui, qu'a raconté Luc, mais là c'est Jean qui, à sa manière, va raconter ça.
Dans un récit extrêmement ramassé. Donc vous allez pouvoir partir en mission. Ça signifie que les disciples deviennent responsables. Ce qui correspond là aussi au dernier discours de Jésus chez Jean. Il est heureux pour vous que je m'en aille. Et puis, je vais vous envoyer l'Esprit Consolateur. Et puis, vous serez en première ligne. Et puis, tout dépendra de vous désormais. Il ne faut plus se reposer sur moi. Vous êtes en première ligne.
Vous êtes adulte responsable.
Exactement. Vous êtes sevré. Allez-y maintenant. Et allez-y tellement que ce que vous ferez sera déterminant. Et ce que vous ne ferez pas le sera tout autant. C'est extrêmement exigeant et c'est là qu'on voit que le christianisme est vraiment une histoire d'éthique de la responsabilité où notre responsabilité est engagée en permanence. Ce que nous faisons se vit devant Dieu, ce que nous ne faisons pas se vit également devant Dieu. Et dans les deux cas, ça a des conséquences et des répercussions sur l'ensemble de la création. Le pardon, il faut le comprendre comme le fait de délier.
Oui, quand Jésus dit « à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et puis à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus ».
C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de sauver l'homme pécheur de ses aliénations, pour reprendre un peu le vocabulaire des années 70. Il faut faire en sorte que les hommes puissent libérer leur propre créativité. Le souffle, c'est aussi ce que l'on a au début du livre de la Genèse, quand il y a la création du monde dans le chapitre 1. Le souffle, l'esprit de Dieu plane au-dessus du tohu-bohu.
Donc c'est une nouvelle création là.
Oui, vous serez capable de poursuivre cette œuvre créatrice qui a toujours émailler le texte biblique. Là encore, pas de quiétisme.
C'est-à-dire quiétisme ?
Le quiétisme, c'est de se reposer dans une sorte de confort parce que on confie à Dieu le soin de tout entreprendre, comme si Dieu était un faiseur. Donc, c'est à nous d'incarner l'espérance de Dieu. C'est à nous d'exaucer Dieu, en fait.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
James Woody, nous continuons à regarder l'évangile de Jean, cet épisode où Jésus se manifeste pour la première fois après sa résurrection à ses disciples. Jean nous dit que l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ». Thomas veut des preuves concrètes.
On veut des preuves, on veut des certitudes. Eh bien oui, comme nous tous, ou comme beaucoup de gens qui nous rencontrent, qui aimeraient bien avoir la foi et qui nous demandent des preuves tangibles, des preuves concrètes, des preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Thomas, Didyme, le jumeau, c'est nous. C'est nous qui venons après. C'est nous qui arrivons après la bataille. C'est nous qui n'avons pas pu poser notre tête sur le sein de Jésus. Nous ne sommes pas tout à fait le disciple bien-aimé. Nous sommes Thomas, pris de doute. Est-ce que vraiment les choses se sont passées comme ça? Est-ce que la Bible ne nous raconte pas des foutaises? Est-ce que les disciples qui nous ont précédés, est-ce que les apôtres qui nous ont précédés ne nous ont pas embobinés en quelque sorte? Comment on fait pour savoir si c'est la vérité vraie? Oui, pour le dire de façon très, très crue, très prosaïque. C'est comme cela que va se jouer le drame dans ces deux moments où Thomas arrive après la bataille, et puis il y aura la deuxième...
Le deuxième passage
le
de
deuxième
Jésus.
Tour, le deuxième tour.
Séance de rattrapage.
Séance de rattrapage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut prendre au sérieux ce doute de Thomas, qui, à mon avis, est bien plus intéressant que cette sorte de foi un peu automatique des disciples. Il est juste et bon de s'interroger si on ne nous embobine pas en religion. Il est juste et bon de se demander si nos prêtres et nos pasteurs, nos prédicateurs, ne sont pas en train de nous raconter une belle histoire, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile. En fait, ce que Thomas remet en cause ici, c'est l'argument d'autorité. C'est pas parce que tu es Pierre et que tu es peut-être le premier parmi nous que je devrais prendre au pied de la lettre ce que tu me dis, et surtout, le prendre sans l'interroger. Qui me dit que tu n'es pas en train de te fourvoyer toi-même? Le doute de Thomas est un doute scientifique. J'ai besoin d'éléments pour faire mon propre jugement. Je refuse de vous croire aveuglément.
C'est nécessaire, quand on est chrétien, de travailler cette notion de résurrection.
C'est important de tout travailler. On nous a tellement raconté des choses à côté de la plaque. On parle des stigmates de Jésus. C'est un Dieu faible. Et on nous parle d'un Dieu tout-puissant dans la tradition. Il y a un problème là quand même. Donc il faut revisiter nos images de Dieu. Il faut aussi revisiter notre rapport de croyant à Dieu et aux autres. Combien de fois on nous a dit « le frère, la sœur, c'est celui qui est chrétien, qui confesse la même foi que toi ». Ah non, c'est beaucoup plus large que ça, la fraternité. Toute chose qui mérite d'être revisitée. Non pas pour tout balayer, mais pour être certain que nous ne nous tournons pas vers des idoles, en fait.
Alors, séance de rattrapage pour Thomas, puisque Jean nous dit que 8 jours plus tard, Jésus se manifeste à nouveau aux disciples. Ils sont toujours enfermés dans la maison, visiblement ça n'a pas changé, ils ont vu Jésus et pourtant ils restent verrouillés dans leur maison. La paix soit avec vous. Et puis il s'adresse à Thomas. Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Ça montre bien que Jésus lui-même prend au sérieux le doute de Thomas. Il ne le traite pas d'oligopistos, d'homme de peu de foi. Il prend très au sérieux sa démarche et il reconnaît qu'il faut finalement un travail personnel pour vérifier la véracité d'un propos. On nous a dit que Dieu était comme cela, mais après tout, Jésus le ressuscité lui-même considère qu'il est nécessaire de s'interroger et de ne pas bêler avec le troupeau.
Alors Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
On va peut-être juste faire un petit retour en arrière pour désamorcer le fait qu'en fait, Thomas ne croit pas parce qu'il a vu ou qu'il a touché, mais parce qu'il a entendu Jésus. C'est la parole qui est déterminante pour sa foi. Il n'a pas mis les doigts dans les plaies. il entend Jésus lui dire une parole qui le concerne, et du coup, il y va. Alors après, il y a effectivement le heureux. Moi, je serais tenté de la prendre à l'envers, cette phrase. Heureux ceux qui croiront malgré ce qu'ils ont vu. Heureux ceux qui croiront malgré ce que l'Église aura montré. Heureux ceux qui croiront en dépit de toutes les exactions et de toutes les horreurs commises par les représentants du Christ.
Oui, parce qu'on a souvent reproché justement ces égarements à l'Église.
Et à juste titre. Eh bien, la foi, malgré tout cela, là, ça devient surnaturel. Et ça devient intéressant. Parce qu'en fait, ça signifie que nous sommes connectés directement avec l'Évangile. Et c'est ce qui se passe pour Thomas. Thomas n'est pas branché sur ce qui est visible. Il n'est pas branché sur la superficialité. Il n'est donc pas branché sur la pompe de l'Église. Il est branché sur l'Évangile qui est à nouveau annoncé par Jésus, qui s'adresse directement à lui, qui prend au sérieux son doute et qui lui propose quelque chose de crédible.
Et dans le mot, le possessif, « mon Seigneur et mon Dieu », ça voudrait dire que lui, à l'intime de lui-même, a compris quelque chose, peut-être qu'il n'avait pas compris auparavant, et donc ça n'est pas une instance extérieure de dire ce qu'il faut croire.
Alors il y a effectivement quelque chose d'intime, mais il y a aussi quelque chose de personnel, au sens où ce n'est pas la foi du groupe, c'est la foi de Thomas. Un peu comme Johann Sebastian Bach qui disait « mon Jésus ». Et l'un des pasteurs qui m'a précédé aussi à Maguelone, le pasteur Louis Simon, disait « mon Jésus ». Ça, c'est extrêmement juste, c'est extrêmement honnête. C'est toujours mon Jésus, c'est toujours mon Dieu. On n'a pas la foi de l'Église. Non, c'est notre relation personnelle à Dieu qui est vraiment décisive.
James Woody, rapidement, la finale de l'Évangile précise que il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples. Ils ne sont pas écrits dans le livre, ça c'est les rédacteurs qui le disent. Mais en tout cas, ceux qui sont écrits l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est une sorte de catéchèse là. On vous a raconté des choses et là, c'est une manière de dire « croyez-les ».
C'est ce que nous disions. Comment devenir disciple et comment le rester? Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est de dire que le texte biblique n'a pas épuisé la dynamique de la foi. Il peut y avoir des dynamiques de foi qui se font à côté de la Bible. Il peut y avoir des rencontres interpersonnelles qui sont finalement un peu sur ce modèle-là et qui nous permettront d'accéder à la foi ou de renforcer notre foi ou de lever quelques doutes. Il y a dans ce passage le fait que nous ne sommes pas dans une sorte de totalitarisme avec le texte biblique. Le texte biblique est là pour ouvrir, pour rendre la rencontre possible, mais certainement pas pour nous donner la méthode qu'il faut suivre à la lettre pour enfin devenir croyant. C'est plutôt une caisse de résonance qui va nous permettre de comprendre ce qui se construit en nous.
James Woody, en quoi ce texte il est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui?
Oui, ça finit avec le fait qu'on peut avoir la vie. Mais ça signifie qu'on peut se libérer d'une vie qui serait enfermée sur elle-même, comme les disciples au départ. On peut aussi avoir un doute ou une dynamique de doute qui nous permet de casser les idoles et de pouvoir accéder à des paroles qui nous font véritablement vivre. Et en même temps, cela nous permet de dire que nous-mêmes, qui n'avons pas été les premiers témoins, nous pouvons avoir accès au divin. Nous pouvons avoir accès au divin malgré tous les écueils de cette histoire du christianisme qui effectivement n'est pas toujours très reluisante et qui pourtant nous donne quand même accès à quelque chose qui est de l'ordre du sacré.
Oui, quand vous dites pas toujours reluisant, quelles que soient les confessions. Hein, parce
bien
que...
sûr, aucune religion ne peut se targuer d'avoir été exemplaire.
Mais pour ceux qui disent, c'est bien gentil tout ça, mais finalement, si ces récits ont été écrits 80 ans après, qu'est-ce qu'on peut croire, quoi?
Eh bien, ça a été exactement le même phénomène pour ceux qui sont passés par les camps de concentration. Il y a une expérience qui a été tellement forte qu'elle était incommunicable. Il a fallu le temps de créer une façon de raconter ces événements pour des personnes qui ont été bouleversées, pour des personnes qui se sont rendues compte qu'en fait, jusque-là, elles n'avaient pas vécu. Et donc, cette expérience qui était incommunicable, c'est exactement ce que dit Georges Champrin dans « L'écriture ou la vie ». Il a fallu ce délai de maturation, de digestion pour enfin créer le style évangile, qui est un style unique en son genre.
Qui n'est pas un reportage, il faut le rappeler.
Non, bien sûr. Qui est une catéchèse, comme vous le disiez. Eh bien, pour des personnes qui aujourd'hui ont une vie assez chaotique, des personnes qui ne voient pas très clair, qui ne voient pas forcément le bout du tunnel, on a ici des textes qui nous aident à débrouiller un peu notre vie intérieure et qui nous aident à reprendre un peu en main notre vie. C'est pas si inintéressant que cela. Ce sont des textes qui ont un caractère symbolique, qui nous permettent d'entrer en dialogue avec des gens qui ont réussi ce parcours d'une vie réussie, ce parcours d'une vie enfin libérée de sa misère, de ses caractères un peu problématiques, voire d'une vie à un niveau un peu minable parfois. Là, on peut enfin en reprendre pied dans son histoire.
Merci à vous, James Woody. On peut aller relire tranquillement l'évangile que nous avons commenté, c'est dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.